Bonjour à tous. L'événement de la saison cycliste, le Tour 2021 est parti. Départ de Brest, 184 coureurs, dont le champion du monde français Julien Alaphilippe. Nous serons sur la route du Tour dans un instant. Sydney entièrement reconfiné à cause du variant Delta, un confinement de 15 jours. En France, plusieurs cas signalés dans le Jura et dans le Gers. Une marche des fiertés à Paris et en Ile-de-France. Le défilé partira cet après-midi de Pantin en Seine-Saint-Denis. Dans ce journal également, Mission Alpha avec Thomas Pesquet et son carnet de bord de la semaine et la prescription culturelle du week-end avec le film Gagarine. La météo avec de la pluie au nord-ouest, des orages au sud-ouest. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal à 13h20. Secret d'info au programme aujourd'hui, Jacques Monin.
Quatre vaccins sont désormais validés par l'Agence européenne du médicament, mais toujours pas le russe Sputnik V. Si vous vous demandez pourquoi, eh bien on vous l'explique dans une vingtaine de minutes.
Jacques Monin à 13h20. France Inter. Et on débute donc ce journal avec le Tour de France, 108e édition, et le départ de la première étape donnée il y a quelques minutes entre Brest et Landerneau. Julien Alaphilippe fait partie des favoris pour enfiler le premier maillot jaune, même s'il rêve de perturber la lutte entre les grands favoris, et notamment le vainqueur de l'an dernier, le Slovène Pogacar. Sur la route du Tour de France et sur la moto France Inter, on retrouve Nicolas Perronnet. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Une première étape qui pourrait se jouer aujourd'hui entre Julien Alaphilippe et Mathieu Van Der Poel, le petit-fils d'une légende, Raymond Poulidor.
Exactement, avec des premiers kilomètres très nerveux, hein, ça donne le ton. Alors c'est souvent le cas sur une première étape. La première étape, c'est l'assurance du maillot jaune, évidemment, en cas de victoire ce soir. Et des candidats, il y en a. Le profil de cette première étape aussi s'y prête. Hein, c'est 198 kilomètres très accidentés, avec quelques ascensions à travers les monts d'Arrée, notamment en Bretagne. Et ça devrait, cette étape, ça crée un puncher au sommet de la fosse de la côte de la côte de la Fosse aux Loups, la toute dernière difficulté. Alors oui, évidemment, on pense à Julien Alaphilippe, il a le profil, ou encore à Mathieu Van Der Poel, le petit-fils de Poulidor, qui participe à son premier Tour de France. Son grand-père n'a jamais obtenu le maillot jaune, il pourrait l'obtenir pour sa première étape. Donc voilà, ce serait forcément la belle histoire du jour. La course qui vient de débuter, 23 kilomètres de parcouru, 6 coureurs pour l'instant en tête, dont un Breton, Franck Bonamour, qui vit son premier Tour de France lui aussi. Déjà, voilà une belle histoire pour l'un des régionaux de l'étape, une minute un peu plus d'avance sur le peloton.
Alors Nicolas, la fête du Tour de France, synonyme de calendrier estival, a donc repris, mais attention, le virus rôde toujours.
Ouais, alors c'est vrai qu'il y a un petit air du tour d'avant Covid, hein, depuis ce matin. Alors déjà l'affluence, beaucoup de monde sur le bord des routes, beaucoup de Guanadu, le drapeau breton évidemment, mais ça c'est vraiment pour le parcours. En ce qui concerne les zones départ et arrivée, là aussi il y a du monde, mais c'est un peu plus strict, hein, le pass sanitaire est obligatoire. Ça n'a pas empêché ce matin le public de venir très nombreux quand même sur le port de commerce de Brest. Ce pass sanitaire, il sera obligatoire pour les quatre premières étapes bretonnes, et puis conditions strictes, ambiance Covid aussi évidemment pour les coureurs, comme l'année dernière, hein, deux cas positifs au sein d'une équipe, et pour cette équipe ce sera tour terminé, retour à la maison. Il y aura trois séances de tests pendant le tour. La première vague de tests a eu lieu évidemment avant le départ, tout le monde a été testé négatif, et les 184 coureurs ont bien pu prendre le départ ce matin à Brest.
Nicolas Perronnet, merci, avec Alexandre Abergel. Cette épidémie de coronavirus avec une question, le variant Delta est-il en train de prendre le dessus en Australie? La ville de Sydney s'est entièrement reconfinée pour contrer ce variant redoutable, expliquent les autorités. Un cluster inquiète tout particulièrement les scientifiques et le gouvernement australien. Plus de 80 personnes ont été testées positives cette semaine, toutes en lien avec un chauffeur qui conduisait les équipages des compagnies aériennes de l'aéroport de Sydney jusqu'aux hôtels de quarantaine. Et alors que la vie était quasiment redevenue normale à Sydney, un reconfinement vient donc d'être décrété pour 15 jours. Sur place, Grégory Pless.
Les 6 millions d'habitants de Sydney, la capitale économique de l'Australie, sont de nouveau contraints à rester chez eux. Un choc pour cette ville qui n'avait pas été entièrement reconfinée depuis le début de la pandémie, il y a maintenant plus d'un an. Mais ça n'est pas une complète surprise non plus. Depuis quelques jours d'ailleurs, les rues avaient déjà commencé à se vider. Car contrairement aux autres États australiens qui ont par le passé décrété le reconfinement de villes entières après l'apparition de seulement une poignée de nouveaux cas, la Nouvelle-Galles du Sud, jusqu'à présent, s'y était refusée. Mais le variant Delta, qui circule actuellement à Sydney, est bien plus difficile à contenir, en tout cas sans prendre de mesures drastiques. C'est ce qu'a expliqué Brad Hazard, le ministre de la Santé de Nouvelle-Galles du Sud.
Nous sommes très préoccupés par la situation actuelle. Le variant Delta se transmet dans la population bien plus rapidement qu'on aurait pu l'imaginer. Il faut maintenant que chacun d'entre nous le contre.
Message reçu 5 sur 5 par les Sydneysiders, puisqu'avant même le début officiel du confinement, le port du masque dans la rue était redevenu la norme. Et ces derniers jours, le nombre de dépistages réalisés a lui battu des records. Sydney, Grégory Pless, France Inter.
Et d'autres premiers cas de contamination au variant Delta ont été signalés à Taïwan et au Bangladesh comme en Australie. Un nouveau confinement très sévère sera instauré à partir d'après-demain, lundi. En France, le variant Delta progresse également. Hier, le professeur Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, indiquait que le variant indien allait prendre le dessus, comme il l'a fait en Grande-Bretagne. Ce variant Delta, déjà présent dans les Landes notamment, est également signalé dans le Jura, où les opérations de dépistage gratuit et grand public se multiplient. Une vingtaine de nouveaux cas ont été localisés dans le sud du département après la détection d'un cluster à Moret. Thomas Bichard, France Bleu Besançon.
Les campagnes de dépistage collectif ont permis de détecter 20 nouveaux cas, tous localisés dans le sud du département. Il y en a 17 au lycée de Moret, 5 dans une équipe de football de la commune et le dernier dans un hôtel-restaurant au Rousse. Résultat, les portes de l'internat et la cantine du lycée de Moret sont closes et puis au collège des Rousses, 3 classes sont fermées. Ces 23 cas positifs au variant Delta représentent en tout 257 cas contacts. Les services de l'assurance maladie retracent donc le parcours de 257 personnes potentiellement contaminés. Certains auraient pu rejoindre le nord du département, Lons-le-Saunier par exemple, voire plus loin. Dans le Jura, la moitié de la population est désormais vaccinée. En revanche, ça concerne moins de 2000 mineurs dans le département. Or, le variant Delta, très contagieux, touche surtout les jeunes. Le préfet David Filot appelle donc les habitants à venir se faire vacciner.
Thomas Bichard de France Bleu Besançon dans le Gers. Deux premiers cas de contamination par le variant Delta ont été enregistrés. Les deux patients âgés de 42 et 60 ans qui n'étaient pas vaccinés et avec des facteurs de risque sont décédés. Un plan d'action immédiat pour éviter une reprise épidémique a été déclenché dans ce département. Et cette pandémie a parfois, on le sait, des conséquences dramatiques pour l'économie, avec notamment une pénurie de composants électroniques qui déstabilise l'industrie mondiale et notamment automobile. L'usine Renault de Sandouville en Seine-Maritime est obligée de fermer pendant 13 jours d'ici la fin du mois de juillet, faute d'approvisionnement en composants électroniques qui viennent d'Asie. Une situation inédite selon Fabien Gloagen, délégué FO de Renault Sandouville. Il est avec Amélie Bonté de France Bleu Normandie.
C'est déjà jamais vu à Sandouville, c'est historique. C'est-à-dire qu'on avait vu, on va travailler au jour le jour. Là, une certitude, c'est que la direction, faut dire les choses, elle a dit que c'était au minima, c'était à moyen terme. Il est possible qu'à court terme, c'est-à-dire dès la semaine prochaine, d'autres perturbations liées à ces pénuries viennent s'ajouter à cette. En fait, d'habitude, ils nous disaient ça concernait soit les calculateurs d'airbag, les calculateurs de ABS ou pour les roues. Et là, en fait, c'est un medley de tout qui fait que voilà, on arrive à une telle perturbation sur notre site. C'est arrivé, mais à moindre mesure, puisque notre site était un site protégé par le groupe Renault, puisqu'on a une très forte activité, on va dire. Il était primordial de s'assurer que les salariés allaient être rémunérés. Donc, tous ces jours-là vont être neutralisés dans le cadre de paiement des salaires suite à un accord sur la performance que nous avons signé justement la semaine dernière. Des conséquences très faibles sur la rémunération des salariés Renault. On a quand même plusieurs centaines d'intérimaires sur notre site et là, la question va se poser. La direction nous a dit qu'elle se mettait en relation avec les entreprises intérimaires à cet effet-là.
Fabien Gloagen, délégué FO de Renault Sandouville. À Paris, en Ile-de-France, cet après-midi, une marche des fiertés s'élancera de Pantin en Seine-Saint-Denis pour rejoindre la place de la République à Paris. Une marche autour du thème liberté, égalité, droit d'aimer, luttons contre les discriminations, mais un défilé sans les chars habituels. En direct de Pantin, on retrouve Marion Ferrer. Bonjour Marion.
Bonjour.
La marche va donc partir de Pantin avec l'idée que les personnes LGBT de banlieue puissent marcher chez elles sans être inquiétées.
Oui, c'est une première à sortir de Paris, une première depuis la création de la Marche des Fiertés en 1977. Les mentalités ont un peu évolué dans les grandes villes depuis, mais au-delà, ça reste compliqué. Trop peu de lieux de refuge, d'aide, d'écoute. Pour Mathieu Galipon-Machette, porte-parole de l'Inter-LGBT+, il faut soutenir les associations.
L'enjeu, il est plus rue de Rivoli. Il est clairement dans les zones périurbaines, dans les quartiers populaires, dans les petits villages, où il faut qu'on puisse apporter un soutien aux personnes LGBTQ.
Dépasser le périphérique, c'est bien, mais pour Emeline Pantin, la démarche est encore un peu timide.
On est encore trop proche de Paris et plus on s'excentre, plus c'est compliqué de s'assumer en tant qu'LGBT, surtout dans des banlieues plus lointaines ou plus difficiles.
Et c'est son quotidien, hein, cette jeune femme est lesbienne, professeure dans un lycée de l'Essonne. Les remarques, les regards, les insultes dans la rue, elle le vit tous les jours, autant dans son quotidien, mais aussi dans son travail.
On a des soucis vis-à-vis de la culture, alors ça peut être à divers points, mais vraiment on a encore de gros soucis d'homophobie dans les quartiers. Déjà c'est une petite victoire d'être en banlieue aujourd'hui, de partir en banlieue, mais il faudrait encore plus aller dans les plus petites villes et nous faire entendre.
À Pantin, le temps est encore à l'échange. Le cortège parsemé de drapeaux arc-en-ciel est constitué de beaucoup de jeunes va s'élancer à 15h. 6 km de marche, direction Place de la République à Paris.
Marion Ferrer avec Stéphane Beaufils, le patron du programme alimentaire mondial, David Besley, parle d'une situation de film d'horreur. La famine à Madagascar fait des ravages. Les habitants sont contraints de manger des feuilles de cactus, des criquets ou de la boue. Selon l'ONU, Madagascar est le premier pays à subir la famine à cause du réchauffement climatique. Ce matin, dans On n'arrête pas l'écho, sur France Inter, Frans Timmermans, vice-président de la Commission européenne, s'est exprimé plus largement sur le réchauffement climatique. L'Europe a fixé de nouveaux objectifs en matière climatique, réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030 au lieu de 40% actuellement. Et la Commission européenne proposera une série de réformes le 14 juillet prochain. Frans Timmermans avec Alexandra Ben Saïd.
On va essayer de changer la taxation sur les carburants, parce que les carburants classiques sont toujours en avantage sur l'électricité, par exemple, et sur le renouvelable. Donc il faut changer ça. Il faut quand même aussi augmenter notre capacité de diminuer l'utilisation d'énergie pour le chauffage des maisons et des bâtiments. On a déjà un système de marché de droits de carbone dans l'industrie. Il faut élargir ce système pour l'industrie, pour l'aviation et pour le maritime. Et peut-être, on pourrait même considérer élargir ce système pour les transports et pour les bâtiments. Mais je veux le faire d'une manière qui démontre aussi notre capacité de solidarité. Proposer un fonds social, les gens par exemple qui ont besoin d'une bagnole pour aller au boulot, qui ont besoin d'avoir un soutien pour améliorer l'isolation de leur maison, etc., etc. Donc il y aura la possibilité de cibler ceux qui sont touchés de façon inéquitable par les changements.
Frans Timmermans avec Alexandra Ben Saïd dans On n'arrête pas l'écho. Et on revient au sport. L'autre rendez-vous cet après-midi avec le Tour de France, c'est la demi-finale de l'Euro de basket féminin. La France affronte la Biélorussie avec le statut de super favorite. Cela fait 12 ans que l'équipe de France féminine court après le titre de championne d'Europe de basket. Nouvelle tentative donc ce soir à Valence en Espagne. Les Biélorusses sont les invités surprises de ce dernier carré, mais en demi-finale, il faut se méfier de tout le monde. Valérie Garnier, coach de l'équipe de France de basket avec Jules Haus.
C'est une équipe d'abord qui joue très bien offensivement et qui s'avère aussi par rapport à son groupe être l'une des meilleures défenses de l'Euro. Donc ça en fait une équipe dangereuse. Elles sont sur une dynamique plutôt positive aussi par rapport à tout ce qui leur arrive, parce que je pense qu'elles auraient signé pour être ici. Et force est de constater que sur le premier match, elles ont battu l'Espagne et que donc ça en fait quand même un adversaire redoutable pour nous.
Voilà, Valérie Garnier, coach de l'équipe de France de basket. France-Biélorussie rencontre à 18h. 4, 3, 2, 1, lift off.
Direction la Station Spatiale Internationale pour notre rendez-vous du samedi 13h. Quelques minutes dans l'espace avec Thomas Pesquet et son carnet de bord de la semaine dans Mission Alpha. Hier, l'astronaute Pesquet a réalisé sa troisième sortie dans l'espace en une semaine pour terminer l'installation de nouveaux panneaux solaires. Sophie Becherel.
Notre dernière communication avec Thomas Pesquet a eu lieu avant la journée d'hier, au cours de laquelle il a effectivement réalisé un nouveau marathon de 6h30 dans le vide spatial pour terminer l'installation des nouveaux panneaux solaires. Il nous a expliqué la facilité avec laquelle ils entrent en service. Il suffit de les connecter pour qu'une fois frappés par le soleil, ils donnent de l'énergie à l'ISS. Thomas Pesquet nous a parlé après la deuxième sortie dans l'espace et il savourait sa réussite.
Cette deuxième sortie, elle a été plus facile. Oui, c'est vrai, la première, elle était assez éprouvante. Hein, très honnêtement, elle était extrême en fait. Peut-être qu'on ne s'attendait pas à quel point elle allait l'être, mais vraiment de manipuler cette espèce d'énorme masse, évidemment qui ne pèse rien, mais l'inertie est telle que en fait, il faut être concentré tout le temps. On ne peut pas lui laisser prendre le moindre mouvement, parce que sinon, elle nous emporte. Donc, en permanence, on serre tout le temps ses abdos, les muscles des jambes, les muscles des bras. Donc, c'était assez tendu. En plus, le tour en bras robotique, bah, évidemment, on ne peut pas faire plus vertigineux. Hein. Ça ne peut pas tergiverser. On est attaché par les pieds au-dessus de 400 km de vide. C'est des petites attaches qui tiennent les talons. On s'y attient vraiment à pas grand-chose. Donc, il faut avoir confiance dans le système, évidemment. Donc, on était quand même complètement éreintés après la première sortie. La deuxième, elle s'est mieux passée. On a tout réussi. Je pense que, ne serait-ce que psychologiquement, le fait que tout marche, ça fait qu'on est moins fatigué. Et puis on est resté presque une heure de moins ou trois quarts d'heure de moins, donc ça compte aussi.
Est-ce que vous avez entendu le déroulement des panneaux ?
Non, le déroulement des panneaux, il n'est pas sonore. Alors en fait, dans l'espace, il n'y a pas d'atmosphère ou de particules de gaz pour vibrer, pour transmettre par la vibration en fait, le son. On pourrait écouter, un peu comme les Indiens qui écoutent les troupeaux qui courent au loin en collant leur oreille au sol, on pourrait écouter des vibrations qui se transmettent dans la structure de l'ISS. Malheureusement, on ne pourrait pas dans nos casques. Donc on n'entend pas grand-chose. Non, on n'entend pas grand-chose. Mais c'est spectaculaire visuellement. C'est vrai que c'est un peu bizarre, c'est un peu presque décevant. On voudrait un truc un peu feu d'artifice, un peu une belle conclusion. Et puis non, ça se déroule tout doucement dans le silence. Et même au centre de contrôle, ils nous disaient qu'ils ne savaient pas trop à quel moment applaudir. Ça a pris 6 minutes à dérouler entièrement. Donc ils disaient, est-ce qu'on applaudit au début, à la fin, est-ce qu'on ne sait pas, etc.
Chaque nouveau panneau va apporter 10 kilowatts supplémentaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui surveille la consommation électrique dans l'ISS ?
Non, il n'y a pas de compteur. Mais évidemment, tout ça, c'est très encadré. Hein. Au pied des panneaux solaires, on a des batteries qui se charge, qui se décharge en fonction de si on est dans le soleil ou dans l'ombre. On a 120 volts, hein, côté USOS, on va dire, un peu américain, européen, japonais. Côté russe, on a toujours du 28 volts. 28 volts, c'est plutôt le standard de l'aéronautique. Tout ça, c'est contrôlé. Il y a une position spécifique au centre de contrôle des ingénieurs, dont le boulot, c'est de surveiller la consommation électrique. Et l'activité qui consomme le plus d'énergie, c'est la recherche sur les métaux. En fait, on a des fours qui permettent de faire fondre des métaux. Alors, c'est des petites quantités, hein. C'est pas des hauts fourneaux, mais c'est le même principe. Ça demande énormément d'énergie. Donc, on en a plusieurs. On en a un japonais, un européen, un américain, on va dire, notamment. On peut pas faire fonctionner trois à la fois. C'est pas possible. C'est toujours juste un à la fois. Ensuite, après ça, on a des priorités. C'est vrai que la recherche scientifique, c'est le but de l'ISS, mais en cas d'urgence, ce qu'il faut, c'est assurer l'alimentation des systèmes vitaux qui permettent de contrôler la station, qui permettent de communiquer avec le sol, qui permettent que la propulsion se passe bien, des choses comme ça. Donc, c'est un boulot à temps plein, en fait, de contrôler l'énergie de l'ISS.
Tout autre chose, et parce que je sais qu'il y a des expériences là-dessus, est-il vrai que votre microbiome est dégradé par le séjour spatial ?
Oui, certains microbes, virus aussi, sont plus actifs dans l'espace que sur Terre. Et ce qu'on sait du microbiome des astronautes, c'est que malheureusement, il est un peu dégradé. Et notamment, le microbiome de la peau, en fait. Si on regarde bien, il y a beaucoup d'astronautes qui ont des astronautes cosmonautes, qui ont des problèmes de peau. Alors, ça peut être des boutons, comme un peu de l'acné d'adolescents, ou des rougeurs, des irritations, des choses comme ça. Et moi, je me rappelle avoir eu ça un petit peu pendant mon premier vol. Tout le monde avait plus ou moins un petit problème de peau. Donc c'est une manifestation de ça. Et puis évidemment, on essaie de trouver des moyens de faire en sorte que ça aille mieux et de nous garder nous en bonne santé et puis les futurs voyageurs spatiaux qui voyageront encore plus loin et pendant encore plus longtemps.
Mission Alpha, le carnet de bord de Thomas Pesquet à retrouver sur franceinter.fr. On termine avec la prescription culturelle du week-end, La banlieue, comme vous l'avez rarement vu au cinéma, avec un film poétique autour de l'ancienne cité Gagarine, détruite en 2019 à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Un premier film signé Fanny Liattard et Jérémy Truil, qui met en scène le pari un peu fou d'un jeune homme prêt à tout pour sauver son quartier, Corinne Pellissier.
Ils étaient venus au départ tourner un documentaire avec les habitants d'une immense barre d'immeubles sur le point d'être détruite. 6 ans plus tard, Fanny Liattard, Jérémy Trouille livrent à la place un premier film de fiction plein de poésie autour de cette cité Gagarine, inaugurée en grande pompe dans les années 60 par le premier homme dans l'espace. Bien plus qu'un immeuble, l'ADN de tout un quartier que le jeune Yuri, dans le film, a décidé de préserver.
Tu crois qu'il peut vraiment décider de démolir ?
Je sais pas.
Il faudrait qu'on refasse l'EC, puis la sécu. Si tout est nickel, ils pourront pas la détruire.
Mais attends, mais c'est pas comme ça qu'on répare un ascenseur.
Je sais très bien ce que je fais.
Car c'est ici, au milieu des ascenseurs en panne et des problèmes d'amiante ou de plomberie, qu'il a grandi et s'est passionné pour les mathématiques et l'astronomie. Plus qu'un refuge à ses yeux, une navette spatiale depuis laquelle il va tenter d'organiser la résistance avec quelques voisins et sa combinaison de cosmonautes. Un film très onirique entre bitume et science-fiction qui dépoussière l'esthétique et les clichés de la banlieue. Un hommage aussi aux habitants de Gagarine, engagés comme figurants dans cet ovni qui explore avec grâce et émotion chaque recoin des lieux.
Gagarine au cinéma cette semaine, un film labellisé Cannes 2020. La météo dans un instant.
La météo avec Euromaster, toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Jean-Michel Golinski.
Un maximum de 18 à 20 degrés prévu cet après-midi de la Manche au nord de la Nouvelle-Aquitaine contre 27 à 30 des frontières de l'Est à la Méditerranée et au sud de la Garonne et 23 à 25 sur la région parisienne, le centre Val-de-Loire et le Limousin. Sous un ciel pluvieux cet après-midi sur le quart nord-ouest, un horizon souvent tout bleu sur la Corse et du golfe du Lion à la région PACA, et un temps très variable ailleurs avec des averses, une ambiance qui va devenir lourde et orageuse en cours d'après-midi soirée au sud de la Garonne, puis du massif central au centre la nuit prochaine. Demain, ces orages vont progresser vers le bassin parisien en matinée. Une autre attaque orageuse accompagnée de fortes précipitations va balayer en journée le sud-ouest, le massif central et le centre. De part et d'autre, les averses vont se mêler de coups de tonnerre. À noter un soleil durable ce dimanche entre la Méditerranée et l'axe du Rhône.
Jean-Michel Golinski de Météo France.